Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des Débats. Elle est dirigée ce soir par Charles de Meyer et préenregistrée grâce aux bons soins de Benoît. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Mathieu Boccoté. Mathieu Boccoté, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez commis un livre d'entretien avec un grand ami de cette émission, en la personne de Laurent Dandrieux. Laurent, bonsoir.
Bonsoir.
On ne vous présente ni l'un ni l'autre. Laurent, parce que vous êtes un habitué de State Studio. Mathieu Boccoté, parce que vous les avez fréquentés tout dernièrement et puis que nos auditeurs vous suivent, vous lisent et vous apprécient. Le titre de votre livre d'entretien, c'est « Le pessimiste joyeux » aux éditions Fayard. On a une heure avec vous pour apprendre à mieux vous connaître, connaître vos combats, votre réflexion, mais aussi votre personnalité. Et puis également pour connaître ce qui a intéressé, et je crois beaucoup plu à Laurent, à la fois dans la forme de la de réflexion qui est la vôtre, mais aussi dans votre amitié jubilatoire. Laurent, si ce n'est pas vous faire insulte de commencer par là, Mathieu Boccoté n'a pas exactement le même tempérament que vous.
Non.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette rencontre? Qu'est-ce qui vous a d'abord intéressé, surpris, charmé?
C'est un peu la rencontre du feu et de la glace, effectivement. D'aucuns diraient peut-être d'Astérix et d'Obélix.
Alors, je ferai idée fixe pendant la reste de cette émission.
La principale motivation était évidemment d'être en photo sur la couverture du livre à côté de quelqu'un de beaucoup plus connu que moi. Ça, tout le monde l'a raconté.
Bon, ça, c'est un succès. Félicitations, Laurent Dandrieux.
Non, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours eu en tête le modèle du livre d'entretien qu'a fait à la fin de sa vie Raymond Aron sous le titre Spectateur engagé. Et je m'étais dit que j'aimerais bien faire ça un jour avec quelqu'un que j'admire. Et il se trouve que j'ai trouvé quelqu'un que j'admire et qui en plus est un joyeux compagnon, qui a fait que les 15 heures d'entretien que nous avons eu en face à face pour préparer ce livre ont été beaucoup plus joyeux que pessimistes, autour de bons plats de fromage et de saucisson et de bons vins et de whisky. Et donc ça a été à la fois passionnant et très sympathique, et ce qui est un cocktail qui finalement définit très bien Mathieu, dont j'ai eu la chance de devenir l'ami il y a déjà de cela 12 ans maintenant. Et effectivement, ce qui m'a tout de suite frappé chez lui, c'est que c'était l'inverse de ce qu'on imagine en France quand on pense à un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui se prend terriblement au sérieux, quelqu'un qui pontifie volontiers, quelqu'un qui prend ses idées au sérieux et qui en oublie toute la joie et la gaieté de l'existence. Et Mathieu est évidemment l'inverse de cela, non pas qu'il ne prenne pas sa pensée au sérieux, mais il la décline d'une manière qui est extraordinairement vivace, vivante, enthousiasmante. Voilà. Et puis c'est vrai que, pour rebondir sur votre question, je trouve que ce qui est intéressant dans notre attelage, c'est qu'on justement on ne se ressemble pas du tout au niveau du tempérament, et que ça permet un dialogue qui, me semble-t-il, en devient plus riche et plus intéressant.
C'est en effet foisonnant, passionnant. Vous ne ressemblez pas à la caricature de l'intellectuel français sous bien des rapports. On va en parler ce soir, Mathieu Boccoté. Est-ce que, en même temps, vous rendez hommage d'une certaine manière dans ce livre d'entretien à la vie intellectuelle française? Vous dites qu'il est très appréciable, qu'elle déborde de l'université, qu'elle habite la cité de manière un peu plus vaste.
Ah oui, non, mais la vie intellectuelle française, en fait, on pourrait dire depuis la Deuxième Guerre, mais plus encore tout au long du XXe siècle, elle est passionnante parce que les grandes thèses qui s'affrontent ne se confrontent pas seulement dans l'arène universitaire, avec un vocabulaire exagérément poulé, avec une fausse prétention à la science très souvent, avec la volonté de neutraliser la charge existentielle du propos dans une querelle qui s'épuise entre chers collègues. Non. La vie intellectuelle française se passe au cœur de la cité et elle structure en bonne partie la vie démocratique du pays. Et dans la longue histoire intellectuelle française, disons mes préférés, appelons-les comme ça, sont toujours ceux qui étaient néanmoins en opposition avec le consensus progressiste de Sartre à Boucheron aujourd'hui. On peut trouver des figures comme Aron, évidemment, Freund, Jouvenel, et là on pourrait étendre ça jusqu'au temps présent. Donc c'est dans cette tradition d'opposition au consensus progressiste dans la vie intellectuelle française que je me suis, tout jeune, projeté, parce que mon père s'y projetait aussi, donc c'est une dimension familiale là-dedans. Donc c'est... Non, je pense qu'elle est absolument fascinante. Ensuite, dans cet environnement, les intellectuels de gauche sont absolument remarquables pour produire une pensée désincarnée, étouffante, et qui, en dernière instance, liberticide et souvent totalitaire. Mais ceux qui s'y opposent ont une vie intellectuelle ne serait-ce que de combat plus que féconde. Et donc c'est pour ça que je dis de Aron jusqu'à Finkielkraut aujourd'hui, en passant par Jouvenel, Girardet, nommez-les, on est devant des gens qui ont défendu à la fois l'esprit des libertés et un véritable patriotisme de civilisation, un patriotisme tout court aussi.
Vous, on a cité Le Spectateur engagé comme livre de référence. Vous êtes un lecteur engagé et un grand lecteur qui n'hésitait pas à écrire, à rentrer en conversation avec les gens qu'il admirait, les ouvrages qu'il admirait. Vous faites l'amitié à Laurent de citer quelques-unes des admirations que vous avez dans ses œuvres. Finalement, cet exercice d'admiration, cet exercice de plaisir à lire les autres, c'est aussi un trait caractéristique, j'ai trouvé, de ce qu'on voit dans vos réponses. Votre édification intellectuelle, elle n'est pas du tout une action solitaire, elle est aussi une action de piété, peut-être un grand mot, mais vous savez admirer, vous savez aimer.
Mais il y a un bonheur dans l'admiration, premièrement. Ça permet de garder la tête haute, de regarder au-delà de soi, c'est quand même déjà pas mal. Ensuite, je me suis toujours méfié, je me rappelle quand j'enseignais, et puis j'ai entendu ça souvent au fil du temps, des gens qui disent « je ne veux pas trop lire, je ne veux pas que ça m'influence ». je trouvais ça absolument fascinant. Donc là, je veux d'abord penser par moi-même avant de savoir ce que les autres pensent. Et moi, il y a une formule de Finkielkraut que j'ai toujours trouvé remarquable, c'est « on ne pense pas par soi-même de soi-même ». On passe toujours par le détour des œuvres, le détour d'autres que soi pour être capable d'accéder à sa propre réflexion. Et ça, de ce point de vue, la conversation, elle se fait à la fois avec des amis, elle se fait avec des auteurs vivants, morts. Et par ailleurs, il y a un véritable plaisir, et ça aussi, je le dois à Finkielkraut en partie, le plaisir de la citation, c'est quelque chose. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est rendre hommage, c'est ne pas faire croire que tout vient de notre petite caboche, qu'on est capable véritablement de tendre la main. Et à partir d'une citation, c'est que ça crée, en fait, comme ça, ça crée une conversation nouvelle. Donc non, je pense qu'il y a un bonheur d'admiration et je me méfie de ces espèces d'esprits auto-engendrés qui rejettent toute forme de filiation et qui sont incapables de dire merci.
Laurent Dandrieu, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Mathieu Bock-Côté?
Oui, je m'en souviens très bien. Il se trouve que Mathieu avait eu la gentillesse de m'envoyer un petit courriel de Montréal pour me remercier de la lecture qu'il était en train de faire de mon dictionnaire passionné du cinéma. Et je ne savais pas trop qui était Mathieu à cette époque-là. En France, il y avait peu de gens qui le savaient. Mais il se trouve que le hasard a fait que je devais me rendre à Montréal quelques mois plus tard et que donc son mail était suffisamment sympathique pour que je lui propose que nous nous rencontrions. Et donc, je suis allé à ce rendez-vous sans trop savoir à quoi m'attendre et un peu inquiet, comme quand on doit passer une soirée avec quelqu'un qu'on ne connaît ni Dave ni d'Adam. Et j'ai eu de la surprise tout de suite de constater qu'il avait organisé un banquet, puisque c'est un de ses grands plaisirs. Et donc, il avait convoqué deux de ses très bons amis québécois de Montréal, avec lesquels nous avons passé une excellente soirée. Je dois compléter en disant qu'il s'était enquis de savoir auparavant, avant même que je mette le pied à Montréal, si je ne passais pas par la ville de Québec auparavant. Et c'est sur ma réponse positive, il s'est arrangé pour me faire rencontrer un de ses amis professeurs de philosophie sur place, qui m'a reçu dans sa famille, fait visiter la région. Donc j'ai eu tout de suite un avant-goût de la chaleur et de l'hospitalité et de la gaieté québécoise, et puis aussi de cet enthousiasme tout à fait étonnant pour nous autres Français qui sommes souvent mal reçus à l'étranger parce que considérés comme arrogants. Et
ce qui est évidemment faux,
ce qui n'a rien à voir avec notre tempérament. Mais là, au Québec, effectivement, on a ce grand plaisir de susciter une sympathie immédiate et instinctive du simple fait d'être Français.
Dans le livre de Mathieu Bock-Côté et Laurent Dandrieu, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard, on parle beaucoup du Québec et on va en parler beaucoup. Je crois que c'est une manière intéressante d'aborder cette discussion que de vous demander, Mathieu Bock-Côté, quand vous rencontriez des intellectuels ou des journalistes français de passage dans votre pays, qu'est-ce que vous vouliez leur montrer, leur faire découvrir en premier, finalement? Qu'est-ce que vous vouliez leur transmettre prioritairement?
Alors, d'abord et avant tout, je voulais leur rappeler, et je l'ai toujours fait, qu'ils avaient rendez-vous avec l'histoire dans quelques années. Je ne savais pas exactement à quel moment, mais se poserait tôt ou tard la question à nouveau de l'indépendance du Québec. Et donc, il y aura un troisième référendum sur l'indépendance. Et à ce moment précis, le Québec allait avoir besoin de la France. Et je comprends. Alors, les Français, avec raison, ne pensent pas à l'indépendance du Québec tous les jours. C'est pas
alors que vous, c'est toutes les minutes.
Oui, ben ouais, exactement. Alors, mais bon, moi, donc là, je veux combien de fois chez moi, mais quand je venais ici, aussi, puis encore plus quand je me suis installé, je prenais toujours la peine de leur dire, bon, voilà où en est la question québécoise, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous espérons, et par ailleurs, voilà ce que nous attendons de vous. C'est-à-dire, globalement, de prendre au sérieux le mouvement national. Je connais, si on fait l'histoire des, on pourrait dire des 70 dernières années, on connaît pas de pays indépendant qui parvenait à l'indépendance, de pays qui parvenait à l'indépendance sans l'appui d'une grande puissance. Donc on peut dire que c'est la différence entre la Croatie, la Slovénie et la Catalogne. Donc les Croates, les Slovènes avaient l'appui de l'Allemagne, les Catalans avaient l'appui d'eux-mêmes et croyaient avoir l'appui de structures générales européennes, tout ça. Le résultat était catastrophique pour eux. Le Québec a l'appui de la France. La marque gaullienne compte encore. Le Vive le Québec libre est un moment qui compte dans notre histoire. Et le fait est que ça a créé un engagement longtemps vécu comme un devoir de réparation à l'endroit des Québécois. De Gaulle le voyait ainsi. C'est-à-dire, nous les avons abandonnés, ce qui est plus ou moins exact, mais bon, nous les avons abandonnés, nous devons payer la dette de Louis XV. C'est le titre, d'ailleurs, du très beau livre de Christophe Tardieu consacré au voyage général de Gaulle au Québec. Donc, moi, j'ai toujours eu ce souci de leur rappeler que nous avons une tâche à accomplir ensemble le jour où le Québec aura de nouveau rendez-vous avec l'histoire. Bon, ensuite, une fois que c'est dit, eh ben, la conversation se noue sur mille sujets, mais il y a toujours cette dimension qui est fondamentale, qui est la quête du Québec libre.
Cette quête du Québec libre, elle transporte votre personne, votre œuvre, mais c'est aussi une tradition familiale. Et vous avez beaucoup de pages, beaucoup de lignes sur cette question de la transmission. C'est important pour vous de faire état du fait que c'est pas simplement une découverte personnelle, c'est aussi une transmission.
Ah bah, surtout, évidemment, mon paternel avait eu la chance d'avoir comme professeur à la fin des années 50 et au début des années 60 parmi les principaux intellectuels de l'indépendantisme renaissant. Donc des gens comme Raymond Barbeau, Maurice Séguin, Michel Brunet, Guy Frégaud, des noms qui ne sont pas connus en France, mais que vous connaissez indirectement néanmoins. Parce que notre plus grand cinéaste a été formé à l'école, ce qu'on appelle l'école de Montréal, qui est l'école d'interprétation historique qui a été celle qui a marqué mon père pour sa vie avec Maurice Séguin, donc qui est le grand disciple chez les cinéastes de l'école de Montréal, Denis Arcand. Donc Denis Arcand, quand on regarde ses films, c'est truffé de références à l'école de Montréal. Il faut être québécois pour le savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir donc cette école de formation historique à compter. Donc mon paternel est passé par... on pourrait dire par cette école historique. Il a été professeur toute sa vie. Alors, c'était pas un militant de tempérament, mais il était profondément indépendantiste et profondément nationaliste. Chez nous, c'est pas un gros mot. Et combien de fois l'ai-je entendu? J'étais tout petit, là, j'entendais des formules qui ont m'amené, je vais finir par comprendre au fil du temps, mais parlant de l'importance de se gouverner soi-même, de l'agir par soi collectif, comme l'avait dit Séguin. Bon, Maurice Séguin. Donc là, moi, je devais avoir une petite tête de singe chavant, 12, 13 ans, j'ai probablement dû dire aux gens, mais ça, c'est l'agir par soi collectif, c'est important. Séguin l'a dit. Quel Séguin? Ah! Donc il y a quelque chose là-dedans. Je prétends pas avoir découvert au terme de je ne sais quel parcours initiatique mes idées politiques. Je suis né dans une tradition familiale qui me convenait. La crise d'adolescence n'est jamais venue et ne viendra pas. Dès lors, je poursuis la tradition. Enfin, ensuite, il y a des sensibilités différentes. Il y a un tri qui s'opère probablement. Mais globalement, je m'inscris dans la continuité d'un combat qui remonte à très longtemps quand même pour s'assurer que le Québec demeure et que le Québec advienne.
Laurent Dandrieux, on a compris que la truculence de Mathieu Bock-Côté rendait son plaidoyer indépendantiste en début de repas convaincant et enthousiasmant.
Mais enfin également.
ce qui peut frapper, c'est que finalement peut-être que vous n'étiez pas très habitué à la question ou pas très intéressé à la question. Est-ce qu'il a su vous saisir? Et si oui, qu'est-ce qui vous a saisi dans cette question?
Non, j'y ai toujours été sensible, même si je connaissais mal l'histoire du Québec, comme malheureusement beaucoup trop de Français. Je suis très frappé et de plus en plus choqué par l'indifférence des Français et la méconnaissance des Français vis-à-vis de notre histoire américaine, ouais, qui est pourtant absolument cruciale dans notre histoire. Mais c'est vrai que la cause québécoise, pour moi, a toujours été différente de la cause catalane, bien ou de sûr, la cause écossaise, pour lesquelles on peut avoir de la sympathie ou pas, mais c'est vrai que chez nous ça touche une fibre tout à fait intime et c'est une cause qui m'a toujours été d'autant plus sympathique, bien qu'étant modérément gaulliste, que effectivement l'indépendance du Québec sera, j'emploie le futur à dessein, une manière de renaissance de cette aventure française en Amérique, qui est une des pages les plus touchantes et en même temps les plus pathétiques de notre histoire. Donc il y a une dimension tout à fait à la fois émotionnelle et politique, parce que l'indépendance du Québec sera une sorte de nouvelle étape de cette plus grande France dont l'aventure américaine a été l'une des pages.
Alors cette nouvelle étape de la plus grande France, elle nous amène forcément à réfléchir à votre relation personnelle et nationale à la France, et vous essayez de bien distinguer cette question à la fois de l'origine, du lien culturel, et puis en même temps des singularités entre Québécois et Français, et vous essayez de peaufiner un petit peu ces différences. Qu'est-ce que, après des années de réflexion sur cette question, à quelle conclusion en êtes-vous arrivé, Mathieu Bock-Côté ?
Alors, le Québec est une petite nation très égalitaire, c'est-à-dire chez nous, s'il y a une bourgeoisie, c'est simplement des gens qui, en quelques générations, se sont un peu plus enrichis, mais qui conservent globalement les mêmes comportements culturels que la population. Donc on est une société assez égalitaire avec un fond paysan qui est, on est tous à deux ou trois générations du cul des vaches en quelque sorte. Donc ça fait en sorte que c'est une société où il n'y a pas de... Les grands écarts, le sentiment de hiérarchie qui est inscrit dans la culture française, qui vient de l'Ancien Régime et qui la structure encore, quoi qu'on en dise, avec le besoin, par exemple, fascinant à Paris d'être repéré. Moi, j'en ai souvent parlé avec Laurent, ça.
Il y a un passage, d'ailleurs, sur le terme repéré.
Oui. Mais moi, à un moment donné, j'arrivais ici, puis j'entendais des gens me dire, ah oui, qui t'a repéré? Ah, lui, j'espère qu'on va me repérer. Moi, j'étais repéré. Qu'est-ce que c'est pour
moi? Je suis inconsolable de ne pas avoir été le premier Français à avoir repéré Mathieu. Je m'en suis jamais tout à fait remis.
C'est un terme très étonnant. Ça veut dire donc qu'il y a une espèce d'autorité de contrôle qui repère les bons éléments à faire monter à la cour pour qu'on puisse ensuite jouir ensemble des privilèges aristocratiques de ce monde. Donc ça, c'est un contraste. Ensuite, il y a le Québec est très noble, donc c'est très égalitaire, et ce n'est pas, moi qui n'ai pas très égalitariste, ce n'est pas désagréable une société qui conserve quand même cette dimension familiale. Ensuite, c'est une société nord-américaine pour le meilleur et pour le pire. Société du confort, comme on dit. Société du lien qui se fait et se défait rapidement. À la différence des relations sociales en France, ce qui m'a toujours frappé, c'est que le lien d'amitié ici, lorsqu'il se crée, prend une profondeur tout à fait singulière. Je dis pas que ça n'existe pas en Amérique du Nord, je dis que c'est pas la norme. Je pense que j'ai raconté d'ailleurs à Radio Courtoisie, mais il y a quelques semaines, je me permets de vous le dire encore parce que ça m'a frappé. Au Québec, si on croise quelqu'un, on me dit « Oui, tu viendras manger à la maison », ça n'engage à rien, en fait. C'est-à-dire « Oui, tu viendras un jour, dans le prochain siècle, il est possible que tu viennes dîner. » Bon, d'accord. Ça veut pas dire qu'on se reverra pas, ça veut simplement dire que ce sont des paroles presque de politesse. Et ici, je me rappelle, la première fois, deux fois, des gens me disaient « tu viendras dîner à la maison », je dis « Oui, d'accord ». Là, je me rends compte que je suis très mal élevé parce que j'avais pas compris que c'était une véritable invitation. Je traitais ça sur le mode « Comment vas-tu? Ça va bien? Très bien, merci, passons à autre chose. » Donc, il y a des différences culturelles inévitablement. Il y a une fascination, je crois, puis ça, je le vois, il y a une fascination québécoise, mais ça, c'est du quotidien, hein, pour l'art de vivre à la française qui existe. Tous les Français qui croient que la grandeur de leur pays à l'étranger tient dans la mythologie républicaine, le génie de la République, des droits de l'homme, tout ça, peut-être un peu, mais surtout, c'est quand même, globalement, c'est l'art... Le Québécois qui arrive ici est à la recherche de son moment apéro. C'est-à-dire, vous me direz que c'est un détail, mais c'est un art de vie, c'est une manière... C'est plus riche, c'est une manière d'aborder l'existence autrement que dans le caractère industriel et robotique et programmé nord-américain. Les Français qui arrivent chez nous souvent découvrent une société où l'ascenseur social fonctionne peut-être un peu mieux et qui une société aussi plus, les rapports sont plus simples, une société comme je dis de confort mais de moins de raffinement.
Si je peux me permettre de rajouter une chose, Mathieu a dit que effectivement ce qui caractérisait la population québécoise c'était sa proximité avec les origines paysannes, et il me semble qu'il y a une conséquence très concrète de ça qui est que c'est une société très pragmatique. Et que ça touche également, ça influence également la vie intellectuelle québécoise, c'est-à-dire que cette origine proche encore de ses origines paysannes est bien fait que le établit une sorte de barrage contre l'intellectualisme, contre l'abstraction, contre le côté très très parfois nébuleux que peut avoir la vie intellectuelle en France et qui n'est pas du tout, qui me paraît assez étranger à la vie intellectuelle québécoise en général et à la pensée de Mathieu en particulier.
Est-ce que vous confirmez, Mathieu Bocoté?
Oui, on est une société assez pragmatique, assez, je dirais, j'aime pas le mot anglo-saxon, donc on n'est pas anglo-saxon, mais assez pragmatique parce que oui, plus rural, il n'y a pas si longtemps, on n'a pas fait notre vie intellectuelle, c'est longtemps, on est une société, petite société paysanne, une société, un peuple vaincu, il ne faut pas l'oublier, avec une vie intellectuelle qui tournait essentiellement pendant un temps autour du clergé. Il y avait aussi une vie intellectuelle plus libérale, mais qui était sur le mode de, on singeait ce qui se passait dans les métropoles pour se donner l'impression de ne pas être des provinciaux cutéreux perdus à Montréal ou à Québec ou à Trois-Rivières. Donc il y avait, notre vie intellectuelle n'était pas sans intérêt. Il y a des grandes figures qui s'en détachent au fil de l'histoire, mais le fait est que ce qui s'est construit par ailleurs depuis... depuis les années 20, avec Lionel Groulx, qui est une figure qui compte, et ensuite, à partir de la Révolution tranquille, les Québécois sont toujours, dans leur vie intellectuelle, occupés à faire la preuve de leur propre existence. Et ça, c'est très psychologie des petites nations. C'est-à-dire, puisque notre existence ne va pas de soi à l'échelle du monde, puisque pour les empires, les petites nations sont des résidus folkloriques aux alentours qui peuvent disparaître, il y a une formule qu'on prête au chanoine Groulx, qui en fait pas qu'on lui prête, il y a de lui, il dit rien, on dit à l'époque, non pas les Québécois, mais les Canadiens français, rien ne meut autant le Canadien français que de lui faire la preuve de sa propre existence. Et ça, quand on est Québécois, dans un pays, le Canada, qui globalement nie l'existence du peuple québécois ou ne lui reconnaît qu'une existence strictement symbolique sans portée constitutionnelle, quand on est en Amérique du Nord, on nous explique par ailleurs que, surtout dans les temps présents, avec le racialisme présent, ben, l'identité québécoise disparaît dans une forme de blanchité nord-américaine un peu étonnante, alors que comme Québécois, que je sache, on fait pas par... j'ai pas souvenir de notre grand moment de domination impériale sur tous les peuples du monde. On est plus proche des Irlandais de ce point de vue, des Estoniens, des Lituaniens, quoi qu'il en soit. Donc, conserver la trace québécoise et surtout, c'est toujours facile quand on est d'une petite nation de se dire, ben, est-ce que ça vaut la peine de poursuivre? Parce que bon, on est sur le territoire nord-américain, on a accès à l'Empire si on le veut, il suffirait d'une ou deux générations pour se convertir à l'identité impériale, puis désormais faire partie nous-mêmes de cette force impériale de notre temps. Puis en dernière instance, les Québécois, depuis deux siècles et demi, et un peu plus depuis la conquête anglaise, s'entêtent à exister par eux-mêmes dans leurs différences vitales. Je pense qu'il y a à travers cela une forme de réflexe existentiel, mais qui ne se conjugue pas, sauf chez les moins intéressants de nos intellos, dans la passion théoricienne qui peut exister quelquefois dans la gauche française.
Mathieu Bocoté a utilisé un mot qu'on connaît un petit peu en France, c'est celle de révolution tranquille. Est-ce que j'ai eu l'impression que c'était un élément qui vous intéressait de définir avec lui, Laurent Dandrieu?
Oui, parce que c'est un moment historique assez crucial dans l'histoire du Québec et assez paradoxal. La révolution tranquille, c'est un mouvement de réappropriation par les Québécois de leur identité nationale qui survient dans les années 60 avec un double mouvement, c'est-à-dire effectivement réaffirmation nationale, mais en même temps rupture avec un certain nombre d'éléments de l'identité québécoise perçus comme liés à la domination anglaise et notamment avec le catholicisme. Et c'est vrai que pour un Français, ça paraît assez étonnant, ce double mouvement de renationalisation et en même temps de détraditionnalisation. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup voulu interroger Mathieu dans ce livre là-dessus pour qu'il... nous permettre de comprendre un peu mieux ce mouvement qui peut paraître un Français très paradoxal.
C'est ça, en fait l'Église au Québec a été comme gardienne de fait ou pas d'une partie de la tradition et des identités jusqu'à ce qu'elle semble être mise de côté, pas tellement avec véhémence mais...
Un peu quand même.
Allez-y Mathieu Bocoté.
Alors disons globalement, au moment de la colonie, l'Église joue son rôle d'institution culturelle, mais ce n'est pas la seule. Le pouvoir politique compte en Nouvelle-France, la société est organisée et pas sur le mode clérical. Après la conquête anglaise, l'Église devient notre seule institution collective. Ensuite se développe de 1791 à 1840 environ un pouvoir politique spécifiquement canadien-français, donc encore une fois, dissociation relative du politique et du religieux. Après 1837-38, donc des rébellions pour l'accession à l'indépendance de ce qu'on appelle alors le Bas-Canada, les Canadiens-français, les Québécois, le pouvoir anglais décide d'abolir l'existence politique canadienne-française qui s'appelait le Bas-Canada. Et là, la seule institution dont on dispose à ce moment-là, c'est l'Église. L'Église devient une Église nationale. Le refuge est l'expression et l'institution de la nation. Donc, pour le meilleur et pour le pire. Donc, pour le meilleur, parce que je pense que notre incroyable vitalité démographique qui a permis notre survie est évidemment liée à notre catholicisme. Ensuite, c'était notre médiation vers l'Occident, qu'on en pense. C'est-à-dire qu'à travers Rome, on avait accès au cœur vital, au cœur philosophique, au cœur religieux du monde occidental. Et au même, d'ailleurs, c'est important, la tradition des missionnaires canadiens français est une longue tradition un peu oubliée aujourd'hui, mais c'était l'institution par laquelle on se projetait dans le monde. Ensuite, à partir de, on pourrait dire, des années 30, 40, 50, 1930, 40, 50, l'Église bascule dans une forme de réflexe clérical assez lourd, ce qui fait qu'en 1960, et par ailleurs, collabore aussi avec les Anglais, faut pas l'oublier. C'est-à-dire, le haut clergé est un clergé qui est dans une psychologie de collaboration avec le conquérant, même si on n'utilise plus nécessairement ces termes-là, alors que dans le bas clergé, ça donne, c'est beaucoup plus nationaliste. Et en 1960, avec la Révolution tranquille, c'est comme si les Québécois veulent se débarrasser à la fois du conquérant et du clergé, et ils ont réussi à se débarrasser du clergé. mais ce qui fait par ailleurs, donc, il y a eu une période de révolte très vive contre le catholicisme, et depuis 20 ans, je vous dirais, une forme de réappropriation lente, d'abord des symboles identitaires du catholicisme, donc globalement le crucifix sans le crucifié, c'est le retour, donc une forme de patrie, on réintègre l'histoire longue du Québec, notamment par le catholicisme dans l'identité nationale québécoise, sans trop savoir qu'en faire, on conserve une vraie hostilité envers la religion en général. Ça, c'est, je pense que le Québec est le seul endroit sur Terre où le mot « la religion en général » veut dire quelque chose. Donc, on dit que globalement, c'est pas par, on a fait dégager les curés, c'est pas pour faire rentrer les imams. Quelque chose qui ressemble à ça dans l'état d'esprit des gens. Ensuite, je vois par ailleurs, dans la jeune génération, chez nous, c'est tout récent, c'était dans la presse il y a quelques semaines, au moment de Pâques, une forme de petite renaissance dans une partie de la jeune génération d'un catholicisme de conviction. Et là, je vois que la nomenclatura boomer dans les médias dit « Aïe, 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 c'est terrifiant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'origine? » Et on dit « Ça doit être la faute de TikTok. » Donc, il y a une forme de bêtise dans l'incapacité à penser le religieux chez une partie de nos élites culturelles, il n'en demeure pas moins qu'au fil... Puis je comprends, soit dit en passant, le fait que les Québécois, au fil de l'histoire, quelque part dans les années 60-70, en avaient marre. C'est-à-dire, je pense que toutes les mères québécoises ou les grands-mères québécoises ont à peu près le récit suivant. Je le dis sans y adhérer, mais je sais qu'il existe dans la société. C'est toujours le même récit, c'est, je sais pas, Madame Tanguay, qui vient d'avoir son 13e enfant, puis là, Monsieur le curé vient passer, félicitations Madame Tanguay pour le 13e, bientôt le 14e. Et là, il a dit, non, Monsieur le curé, c'est plus possible, j'en peux plus. Et bien, en chaire, le dimanche suivant, Madame Tanguay est une mauvaise chrétienne, elle veut interrompre la famille, et ainsi de suite. Ce souvenir-là, je ne sais pas dans quelle mesure c'est arrivé une fois, deux fois, trois fois, mais ça laissait une trace dans l'imaginaire collectif tel qu'encore aujourd'hui, c'est une histoire qui peut remonter facilement à la surface dans des moments de réflexe anticatholique.
Alors que plus grand monde n'a 14
ans. Laurent d'André, oui. Oui, oui, 14e, et puis depuis, l'Église a plus insisté sur la notion de paternité responsable par ailleurs. Alors.
Mais c'est vrai que on sent poindre au Québec, dans une moindre mesure, l'équivalent de ce qui se produit en France aujourd'hui avec cette vague de baptême de jeunes adultes qui frémillent également au Québec, d'après ce que je me suis laissé dire.
On va digérer cette première partie d'émission, amis auditeurs de Radio Courtoisie, puis nous retrouvons Mathieu Boccoté et Laurent Dandrieux à l'occasion de leur livre d'entretien, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard.
13, 4. Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Yeah. Je tire une coupe de pof de clope. Job done pour les vitamines, pis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j'suis à Montmagny. Non, trucker, c'est pas vraiment Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout que ça te fait réaliser. Et derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens? Pourquoi encore on la vit dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Je traîne dans ma remorque tous les excès de mon époque. La surabondance surgelée, shootée, sur-emballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand
il ne restera rien que des ruines et la fin. C'est triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves. Un chat en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de ce bouchon, pas de respect pour la mort. Chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Y'a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne, à la télé, un autre.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des Débats, dirigé ce soir par Charles de Meyer. J'ai le plaisir de partager ce plateau avec Mathieu Boccoté et Laurent Dandrieux, qui publient un livre d'entretien intitulé « Le pessimiste joyeux » aux éditions Fayard. Pendant la pause musicale, vous voulez nous dire quelques mots du groupe que nous avons écouté, Mathieu Boccoté?
C'est les Corbeilles Fringants, hein. C'est un groupe alors, qui émerge dans les... son émergence, c'est vraiment dans les suites du référendum de 95, et puis qu'il y a un grand succès ensuite. C'est une musique très mélancolique. Moi, je suis très attaché aux différents temps dans l'histoire de la musique québécoise. Donc, il y a des temps romantiques, conquérants, joyeux. À un moment donné, quand on a l'impression que tout est foutu, on se met à chanter en anglais. Les Corbeilles Fringants ont eu un succès absolument remarquable. Donc, il y a quelque chose de très, presque un peu traditionnel dans leurs chansons, mais pas comme chez mes aïeux. Par ailleurs, ils ont une puissance, comme je dis, mélancolique, une mélodie assez remarquable. Et leur chanteur, Carl Tremblay, qui est mort il y a 3 ans, je crois, quand il est mort, il y a eu une espèce de sursaut culturel assez étonnant au Québec. Des gens ont fait des veillées funéraires un peu partout pour témoigner de leur attachement à cet homme par qui la chanson québécoise, mais québéco-québécoise, authentiquement québécoise, avait trouvé le moyen de s'incarner à nouveau. Pour moi, c'est un peu... Ils ont pris le relais d'un groupe qui s'appelle Beau Dommage, que vous avez peut-être connu ou non.
Années 70.
Voilà. Le référent musical ici.
Donc, Beau Dommage, moi, j'aime beaucoup. Et je pense que les Cowboys Fringants ont pris le relais, en quelque sorte, du son typiquement québécois pour décrire à travers une forme de la quotidienneté, décrire par exemple ce que veut dire être... À la fois québécois et humain en ce monde.
La sonorité typiquement québécoise, ça nous amène à la question de la langue, Laurent Dandrieux, et on sent que la question du français et de l'amour et de l'intérêt du français pour les Québécois et pour Mathieu Boccoté tout particulièrement vous a intéressé aussi dans les questions que vous avez voulu
poser. Oui, parce que d'abord ça m'a frappé quand je suis arrivé à Montréal, j'ai vu dans les boutiques, on vendait des t-shirts vivre et parler en français. et donc effectivement il y a ce sentiment que la culture française et notamment la langue n'est pas quelque chose de l'ordre du souvenir ou de la mémoire pour les Québécois, mais c'est pleinement existentiel. Et donc ça je suis toujours content d'entendre Mathieu nous expliquer pourquoi.
Ah ben, si je peux voir, il y a une belle formule d'André Bello qui dit « On n'a pas besoin, parce que tu es un poète québécois, on n'a pas besoin de parler français, on a besoin du français pour parler. » Et ça, un peuple qui perd sa langue, ça, on entend l'oublier. Ensuite, sur 4-5 générations, j'en sais rien, mais pendant qu'on perd sa langue, pendant qu'on perd son identité, pendant qu'on devient étranger à soi-même chez soi, pendant qu'on se déculture, pendant qu'on est plus reconnaissable pour soi-même, mais c'est absolument atroce. C'est absolument atroce. Il y a une forme de dégradation existentielle qui s'opère à travers cela. Et dans la Révolution tranquille, on en parlait, il y a une reconquête linguistique, notamment... Je donne un exemple, mais sur le vocabulaire technique du quotidien. Donc, vous avez une voiture. La génération de mes grands-parents, pour la voiture, c'était globalement, ben là, j'ai mon steering, et puis là, ça avec le bumper, donc je vais traduire tout ça, donc le steering, le bumper, là, quelque chose est tombé sur le hood, et puis là, les tires ont crevé, donc je traduis donc
mais
le
steering.
Mais
heureusement, j'avais mon break à main.
Ben, là, le break à bras.
Si break presque. À bras.
Donc là, globalement, donc, le steering, c'est le volant, le frein à main, c'était le break à bras, le hood, c'était le capot, le bumper, c'était le pare-choc, le coffre arrière, c'était le trunk. Donc, quoi qu'il en soit, il y a une volonté de reconquête linguistique, un mot à la fois, Et Carl Bergeron en a parlé dans son livre, qui était là derrière notre premier dîner avec Laurent en 2014, ouais.
2014, printemps 2014.
À Montréal, qui était là, a écrit un livre qui s'appelle Voir le monde avec un chapeau et montre comment lui qui vient d'un milieu où, qui était un peu, je ne dirais pas en voie d'assimilation, mais en voie de déculturation, il y avait une volonté de reconquérir sa langue un mot à la fois. Ce qu'avait fait Gaston Miron aussi. Gaston Miron, le poète qui a eu un écho en France, Bernard Pivot l'aimait beaucoup. Puis il disait quelquefois, on se moquait des Québécois qui quelquefois déformaient la langue. Hein. C'est-à-dire, on reproche souvent aux Québécois leur accent de déformer la langue. Par exemple, pendant longtemps, on disait plutôt que le cheval, en campagne, on disait le joual. Bon, eh bien, Miron disait, ben, quand on dit joual, au moins on dit pas horse.
Vous citez par ailleurs dans une des réponses que vous faites à Laurent le début de l'option Québec de René Lévesque, c'est le fondateur du Parti québécois. Vous dites
plus connu sous le nom de PQ.
Oui, le PQ, bien sûr.
Il dit notamment être nous-mêmes, c'est essentiellement de maintenir et de développer une personnalité qui dure depuis 3 siècles et demi. Au cœur de cette personnalité se trouve le fait que nous parlons français.
Ah oui, même. Alors René Lévesque fait avec Option Québec, c'est le manifeste fondateur de ce que deviendra le Parti québécois. Lévesque est une des grandes figures de la Révolution tranquille. C'est un peu, comme dirait l'autre, c'est notre René Coty à nous, comme dirait ouais, 77. C'est le général de Gaulle, disons, c'est comme ça. Donc, René Lévesque, qui a fait, par exemple, qui, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, s'engage, une famille nationaliste, il s'engage dans l'armée américaine comme journaliste, parce qu'il ne veut pas recevoir d'ordre des Britanniques. Donc, de recevoir des ordres en anglais des Américains, ça va, mais recevoir des ordres des Britanniques son propre pays, ça l'intéresse plus ou moins. Carrière de journaliste, en 1960, s'engage en politique au Parti libéral, qui à l'époque prend le relais de la modernisation du nationalisme. Il a bien changé entre-temps. Mais à un moment donné, il dit, ça ne fonctionne pas, ça a échoué, on ne réussira pas à faire avancer davantage le Québec dans le Canada. Et là, il écrit Option Québec, le manifeste, et ça deviendra le texte à l'origine du Parti québécois, où le texte, il récapitule l'histoire du Québec pour fonder la légitimité du projet national. Donc ça, je trouve ça passionnant, même d'un point de vue philosophique. Vous voulez fonder un projet national, vous récapitulez d'abord l'histoire qui marque votre singularité, qui marque votre personnalité, et qui témoigne de votre désir de vivre et de poursuivre cette aventure. Et donc, il raconte l'histoire de la Nouvelle-France à travers deux paysages, le coureur des bois, c'est-à-dire c'est l'aventurier au temps de la Nouvelle-France, c'est celui qui est en Amérique, puis il s'en va partout planter à la fois, je dirais, le drapeau français sur le continent et aussi par ailleurs avoir une vie d'aventure peut-être un peu à l'écart des mœurs plus rigoureuses des autres, et du paysan, l'enraciné. Donc il raconte cette histoire-là, puis à la fin il dit, du passage que je cite dans le livre, tous ceux qui ne se reconnaissent plus dans cette histoire, je le dis de mémoire, là, mais il le dit bien mieux que moi.
Je peux le lire, sûr, parce que je l'ai sous les yeux.
Laurent était prêt à jaillir.
Voilà. Nous sommes aussi les héritiers de cette fantastique aventure que fut une Amérique, d'abord presque entièrement française, et plus encore de l'obstination collective qui a permis d'en conserver vivante cette partie qu'on appelle le Québec. Tout cela se trouve au fond de cette personnalité qui est la nôtre. Quiconque ne le ressent pas à l'occasion n'est plus l'un d'entre nous. C'est vrai que c'est magnifique.
Ah mais je trouve ça. Moi, je lis ça, puis je me dis qu'aujourd'hui, nous qui sommes enfermés dans des définitions très administratives et juridiques de l'identité, René Lévesque aujourd'hui ne passerait probablement pas le test des valeurs républicaines.
Vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie. Charles de Meyer a le plaisir et l'honneur de recevoir Mathieu Boccoté et Laurent Dandrieux qui publient un livre d'entretien, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard. Il y a beaucoup de choses sur le Québec dont on n'a pas encore parlé. Les auditeurs s'y retrouveront. C'est vraiment passionnant, notamment pour ceux qui, comme moi, connaissaient très mal. On apprend beaucoup de choses et c'est très intéressant, ne serait-ce que si on croit à la comparaison des sociétés
politiques. Si je peux me permettre, il y a une chose sur le Québec dont on n'a pas parlé, mais qui rejoint tellement les problématiques françaises aujourd'hui, c'est que la condition pour que l'indépendance du Québec puisse advenir finalement... Enfin, moi, j'en ai noté 3 qui sont effectivement la langue... la mémoire et puis le nombre. Et c'est le nombre qui permet de maintenir, donc la démographie qui permet de maintenir et la langue et la mémoire. Et je pense que la France est en train de se trouver confrontée exactement à cette même problématique que le Québec finalement.
Ah, mais je suis absolument d'accord. En 1995, au référendum, 94% de participation, alors que c'est pas obligatoire. Soit 82% de Québécois francophones au Québec, à peu près 8-9% d'anglais, puis le reste des immigrés anglicisés. Ou les communautés culturelles, comme on dit. 61% des francophones votent oui, 99% des anglophones votent non, 95% environ des immigrés votent non. Résultat, 49,4% pour le oui, 50,6% pour le non. C'est un crève-cœur absolu à l'échelle de l'histoire, et ça nous ramène à ce que disait Toynbee, cité par Brunet, par Michel Brunet, j'en parlais tantôt, cité par Denis Arcand, cité par Éric Zemmour, ouais, les chemins de l'histoire. Il y a trois facteurs qui comptent dans l'histoire, le nombre et le nombre. Et quand ce qu'on appelle la majorité historique francophone, de pudique manière, sera mise en minorité ou ne sera plus suffisamment nombreuse pour avoir une véritable emprise sur son destin, ben ce sera le début de la fin de notre histoire en Amérique.
On sent qu'il y a des convergences, c'est le moins qu'on puisse dire, intellectuelles, politiques entre vous, Laurent Andrieux et Mathieu Bock-Côté. Est-ce qu'il y a des aspects de Mathieu Bock-Côté sur lesquels vous êtes moins convaincu? Vous disiez par exemple, Laurent, je crois dans les entretiens, que la thématique du régime diversitaire, vous avez au début peu médiocrement...
Oui, mais j'avoue que Mathieu m'a complètement converti là-dessus. Je trouvais le terme de régime diversitaire un peu trop... globalisant, et en fait à la lecture de Mathieu et en l'écoutant défendre cette idée, je pense qu'il a parfaitement raison d'employer ce terme. Je pense que si on a eu des divergences, mais qui se sont résolues aussi sur la question
du dessert,
du Covid, et on n'a pas eu la même analyse par rapport à la pandémie, et surtout par rapport aux politiques de lutte contre la pandémie et leur caractère liberticide. Et je pense qu'on a encore des divergences, c'est probablement sur l'importance des questions éthiques dans le combat politique. Je pense que moi j'y attache probablement à cause de mon catholicisme militant plus d'importance que Mathieu, qui a choisi de se battre sur d'autres terrain.
C'est un regard intéressant que le vôtre là-dessus, puisque dans la droite française et chez ces intellectuels ou ces militants conservateurs ou réactionnaires en fonction des écoles auxquelles ils appartiennent, il y a quand même cet ancrage, quoi qu'on en dise, très catholique, très militant, qui fait que ça fait un peu partie du package, finalement, pour utiliser un mot que vous détestez, évidemment, Mathieu Bock-Côté. Quel regard vous portez là-dessus? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous gêne? Qu'est-ce que ça vous fait penser?
Ma sensibilité n'est pas celle-là nécessairement, mais évidemment, c'est passionnant. Je constate que nos sociétés, devant la multiplication de ce qu'on appelle les revendications sociétales, n'ont plus de frein. Ce qui fait qu'on a, par exemple, l'aide médicale à mourir, comme on dit chez nous, une véritable inflation. C'est absolument... ça en est terrifiant. Donc, le catholicisme, à la manière d'un frein anthropologique, permet de contenir certaines des dérives sociétales d'aujourd'hui. Premier élément. Ensuite, je pense que ces questions-là ne sont pas vaines, mais l'urgence pour notre temps, et sachant qu'en politique, il faut hiérarchiser, l'urgence pour notre temps, j'y reviens, c'est la question identitaire et démographique. C'est-à-dire, fondamentalement, je pense, vous pouvez, une natalité qui se décompose peut être relancée. Une société qui s'endette peut se désendetter. Des impôts peuvent être baissés. L'insécurité peut être combattue. Mais si vous devenez minoritaire chez vous, tout le reste est foutu. Donc, je donne une priorité à cela. Ensuite, j'ai probablement une sensibilité plus libérale que d'autres en la matière. Je suis plus spontanément porté à pardonner à la bête humaine dans sa complexité, sa tendance à trébucher au quotidien. Bon, mais cela dit, ce ne sont pas les questions qui sont au cœur de mon engagement. Je ne les trouve pas vaines, je ne les trouve pas inutiles, mais elles ne sont pas au cœur ni de mon réflexion ni de mon engagement. J'en reconnais la légitimité, mais je pense que si on veut construire quelque chose comme un programme commun du camp national aujourd'hui, ces questions, sauf sur les plus extrêmes, par exemple la théorie du genre, ça c'est véritablement, c'est du lysenkisme, c'est terrifiant, c'est traiter toute une génération comme des enfants cobayes. Tout ce qui touche à la théorie du genre, la négation du masculin et du féminin, là on est véritablement dans une entreprise de destruction délirante des corps et des âmes. Ça, je trouve que c'est un vrai délire. Pour le reste, on verra bien dans un siècle où nous en serons, mais notre responsabilité à l'échelle de l'histoire consiste à empêcher la submersion.
Oui, moi j'ai effectivement toujours un léger désaccord avec Mathieu sur ce sujet, dans la mesure où je considère qu'il n'y a pas de philosophie politique qui ne repose pas sur une anthropologie, et que donc les questions anthropologiques sont des questions cruciales, et que d'une certaine façon, donc la question du mariage pour tous, pour moi, est une question fondamentale, politique fondamentale. Voilà, mais je pense qu'entre Mathieu, la vision de Mathieu et la mienne, c'est une question de priorité plus que de divergence, effectivement.
Ces priorités, vous l'avez dit, pour vous, c'est la lutte contre le régime diversitaire, le multiculturalisme imposé qui en est, sinon sa source, au moins son âme, vous amène à percuter un petit peu aussi les habitudes, le confort de la droite française, en la menant avec parfois de nouveaux concepts, de nouveaux titres, la droite Tolkien, etc., qui sont... qui sont nouveaux. Quand vous regardez ce réveil identitaire, en partie français également, qu'est-ce que vous lui trouvez? Vous lui trouvez de la vigueur, de l'intérêt, de la désunion? Qu'est-ce qui vous apparaît? Qu'est-ce qui vous frappe?
Alors, je vais y aller sur le thème d'actualité, le fameux canon français. Ça, je trouve ça passionnant. C'est-à-dire que on a pendant 30 ans, 40 ans, on a voulu définir l'identité par des concepts abstraits. Même dans le camp national, à la rigueur, hein, c'est identité nationale, identité nationale. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Mais tout ça doit s'incarner, doit se vivre. Une culture doit être vécue. Donc c'est un art de vivre, c'est une manière d'habiter l'existence, c'est une manière de se projeter dans le monde, de l'habiter donc dans les rapports entre les sexes, dans la manière de chanter, dans la manière de manger, dans la manière de boire. Et qu'est-ce que je vois? C'est qu'il y a un désir de réenracinement au quotidien. Tout comme quelqu'un qui, je dirais, revient à la religion, à sa religion, il n'en veut pas la version tiède de prêtre au col romain relâché. Eh bien, quelqu'un qui revient à son identité nationale, qui veut renouer avec elle, bon, c'est moins contraignant, évidemment, mais ce que j'entends par là, c'est qu'il y a une volonté de retrouver les signes et les marques de ce commun au quotidien. Donc ça, la figure du banquet n'est pas que lieu de réjouissance personnelle, c'est aussi un symbole aussi d'une manière de fêter que nous avons de notre côté, dans notre coin du monde. De la même manière, je pense que ce réveil identitaire, ce désir de se délivrer d'un certain universalisme, pas de l'aspiration universelle en elle-même, mais un certain universalisme sans médiation, sans culture, sans enracinement. Donc l'universalisme sans la médiation enracinée, c'est l'autre nom d'une désincarnation. Ça, je pense qu'on constate aussi donc tous les discours républicano-républicains désincarnés. Encore une fois, j'ai rien contre la forme républicaine en elle-même, la question n'est pas là. Comme disait l'autre, c'est merde au roi d'Angleterre qui nous a déclaré la guerre.
Ah, mais c'est un discours anti-républicain insupportable.
mais bon, comme cela dit, je pense que l'existence concrète, la manière d'habiter l'histoire, le fait de se délivrer d'un récit pénitentiel, la volonté de renouer avec tout ce qui fait le concret de l'existence, témoigne de la nouvelle étape de ce renouveau identitaire.
Et d'ailleurs, vous le dites dans le tout premier page de l'ouvrage Laurent Dandrieux, cet amour commun de l'incarnation, c'est quelque chose qui vous réunit complètement avec Mathieu Bock-Côté.
Oui, c'est ce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que probablement en partie à cause de son origine québécoise, Mathieu est le contraire d'un intellectuel de bibliothèque. Mais c'est vrai que cette histoire de canon français et d'autres polémiques similaires font partie des choses qui m'ont convaincu de la justesse de ce concept de régime diversitaire et de son côté totalisant et totalitaire. C'est-à-dire que ce régime diversitaire ne veut pas se contenter d'avoir imposé un modèle multiculturaliste à la société française et aux sociétés occidentales en général, mais veut vraiment effacer toute trace des cultures d'origine de manière à forger littéralement un homme nouveau au sens totalitaire du thème et ne supporte plus effectivement tout ce qui peut rappeler une mémoire, une culture, des coutumes françaises, même réduites au niveau folklorique, parce que le canon français, ça n'est évidemment pas un projet politique, c'est du folklore, c'est de la coutume incarnée si on veut, mais même réduit à ça, la culture française est insupportable au régime diversitaire.
Ça en est fascinant de manière très très concrète, on l'a vu ces derniers temps. D'un côté, on a l'extrême gauche qui multiplie les tracts de supposés saluts nazis dans ces fêtes-là. La méthode est exceptionnelle. Même le service public s'y est mis pour nous prouver qu'il est objectif. Donc on se présente dans un événement comme ça, on cherche la conversation, parce qu'inévitablement, dès que vous avez 15 personnes, il y a au moins 2 crétins dans la bande. C'est inévitable. Si vous avez plusieurs milliers de personnes, il va y avoir un lot significatif de crétins. Donc ils vont dire des conneries, c'est leur job. Et là, que fait le service public? On tend le micro, puis là, on trouve les phrases qui pourraient être coupables, en oubliant que je serais curieux de savoir ce qui se passe si on décide de passer le micro en cachette à la mosquée, ou si on passe le micro en cachette chez Libé, ou si on passe le micro en cachette chez Média. Je serais curieux de savoir, mais là, on fait ça. Au même moment, on prend des photos où les gens ont les bras dans les airs en train de fêter, on décide de décréter que ce sont des saluts nazis, mais c'est de la folie. Et au même moment, le grand recteur de la mosquée de Paris nous explique qu'un repas, une fête centrée sur le porc est une fête fondamentalement discriminatoire et exclusive, parce que tous n'y sont pas théoriquement convenus. Bon, autrement dit, l'expression de la culture française en France est désormais discriminatoire, donc mieux vaut l'évacuer, la neutraliser pour que tous puissent être inclus à rien. Ah, ça commence à être lassant quand même. Donc je trouve que cette querelle-là est très révélatrice du mouvement de qu'on pourrait dire d'expulsion symbolique, mais gastronomique même, des Français de leur propre pays, de leur propre culture.
Ce à quoi on pourrait répliquer d'ailleurs que les rêves partis, pourtant vivement soutenus par la gauche, sont exclusifs des gens qui ne fument pas de pétards et qui ne prennent pas de drogue. Même.
Oui, et puis je suis pas sûr que si on tendait le micro, on n'aurait pas parfois des...
Et j'ajouterais, de ce point de vue, c'est intéressant parce que c'est deux types... Moi, j'ai fait quelques éditos Face à l'info sur ça. C'est même deux types de fêtes différentes. Le banquet, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est des amis tous ensemble, qui chantent ensemble, qui mangent ensemble. Il y a la singularité... On est tous ensemble, il y a la singularité de chaque individu qui, par sa voix, se joint, par exemple, aux différentes chansons. Bon, c'est la conversation. Le propre de banquet, c'est qu'on parle entre soi, on parle entre amis. Le propre de ces espèces de rêves parties bizarres, ben, c'est une forme de transe qui abolit les individus, qui transforme les corps en masse de corps, qui sont commandés par une espèce de musique qui fait bouger la masse sans aucune parole véritablement, ou alors des mots anglais qui apparaissent de temps en temps, genre « energy »,« sex », bon, okay, mais sur le fond des choses, il y a une forme d'abrutissement sur le mode de la transe. Il y a un immense nihilisme qui s'exprime dans cette culture, je trouve, alors qu'inversement, le canon français, le banquet français, c'est tout autre chose. C'est véritablement l'esprit de fête tel qu'on l'a toujours connu sous nos latitudes.
Il y a quelque chose de rassurant, c'est qu'il y a quelques années, la droite institutionnelle se serait dépêchée d'abandonner les organisateurs du canon français. Là, on sent quand même que la leçon est petit à petit apprise et qu'il y a une défense, sinon unanime, du moins majoritaire.
Oui, avec une nuance, c'est-à-dire qu'il y a, donc, je sais pas, 50-60 ans, ce que l'on mange sur le mode de la revendication militante et folklorique et identitaire au canon français, ça faisait partie de notre évidence pour tout. Donc, on a refait de ce qui allait de soi un programme. Donc, il a fallu passer par l'étape de l'idéologisation de l'héritage pour en faire un folklore qu'on peut revendiquer jusqu'au béret pour montrer qu'on a fait vraiment partie de la fête. Mais peut-être est-ce une étape, en fait, c'est assurément une étape pour ensuite renormaliser tout ça dans nos pratiques culturelles.
C'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai. Parfois, cette espèce de réinvestissement un peu caricatural de cet aspect identitaire peut être parfois un
peu... Ce qui nous vaut, malheureusement, chez les jeunes générations, la résurrection de la moustache, qui est une faute de goût, ce qui est une faute de goût atroce, mais qui est devenu un marqueur identitaire d'une certaine forme de fierté française.
Nous continuons notre discussion avec Mathieu Boccoté et Laurent Dandrieux à l'occasion de la publication de l'ouvrage d'entretien Le pessimiste joyeux aux éditions Fayard.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin-terre.
Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y'a des matins, tu te réveilles en pleurant. Quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les sonneurs. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses réels. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire. Pour calmer tes envies de hold-up et la caissière, tu lis des livres qui parlent.
Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles Demeyer. Nous venons d'avoir Mathieu Boccoté avec nous pendant une heure. Il a vogué vers d'autres moyens audiovisuels. Et nous allons terminer cet entretien avec celui qui a posé les questions, Laurent Dandrieux. Vous publiez, je rappelle, le titre de l'ouvrage, Le pessimiste joyeux, aux éditions Fayard. Laurent, bon, c'est pas trahir un secret énorme que vous n'avez pas de tradition exactement similaire avec Mathieu Boccoté. Alors, évidemment, son aspect québécois et vous, français, facilite les choses. Mais on peut dire que Mathieu Boccoté, au-delà de la question nationaliste propre au Québec, est plutôt marqué par une tradition de la démocratie libérale, auquel il fait un certain nombre d'amendements ou d'actualisations, bien sûr. Vous, c'est pas votre tradition première, Laurent Dandrieux ?
Si, c'est ma tradition première, mais je m'en suis un peu éloigné pour me rapprocher d'un courant, je dirais, un peu plus... Bon, on va dire les choses, un peu réactionnaire, mais c'est vrai que moi, quand j'avais 17 ans, comme Mathieu, j'étais plongé dans la lecture de Raymond Aron. Après, effectivement, je me suis frotté à des pensées un peu plus contre-révolutionnaires qu'il pratique aussi, mais qui sont moins qui correspondent moins à son identité politique, qui est à la fois très conservatrice et très libérale. Je pense que dans la pensée politique de Mathieu Boccoté, la liberté occupe un rôle absolument central. Et peut-être d'ailleurs, de plus en plus, à mesure que l'empire du politiquement correct s'étend d'une part, ce qui a renforcé par contraste son appétit pour la liberté d'expression, qui est vraiment un de ses grands combats, et je dirais peut-être aussi son installation en France, qui a probablement renforcé son côté anti-étatique et son côté anti-fiscal, ça certainement. Je pense qu'il a été, il dit toujours que ce qui le surprend en France, c'est une forme de résignation que nous semblons avoir vis-à-vis de l'emprise de l'État et de sa puissance normative et vis-à-vis du fisc. C'est des choses qu'il a beaucoup de mal à intégrer.
Le chapitre numéro 3, intitulé « Petite philosophie politique » de Mathieu Boccoté, recèle d'éléments qui vont animer notre conversation. Vous notez, ça c'est une marque assez semblable avec des généalogies de droite classique en France, qu'il est foncièrement anti-utopiste. Il dit « Vous avez raison, l'anti-utopisme arrive en premier. Le contenu positif est d'une autre nature. Oui. Il vient de l'histoire, il vient de la culture, il vient des mœurs. »
C'est une divergence, en tout cas une nuance que nous avons, et qui a nourri une partie importante de ce chapitre sur sa philosophie politique. C'est que... moi, je suis toujours soucieux de donner à notre conservatisme un contenu positif et un contenu civilisationnel. Et le conservatisme de Mathieu, outre la question souverainiste, qui fait d'ailleurs qu'il se définit souvent comme un national conservateur, le conservatisme de Mathieu est plus effectivement construit contre, en réaction à ce qu'il appelle l'ingénierie sociale, c'est-à-dire la tentation la tentation progressiste de construire ex nihilo une société idéale en jouant en quelque sorte au mécano avec les institutions, avec les hommes, ce qui lui paraît à juste titre fondamentalement liberticide et fondamentalement destructeur de la civilisation, dans la mesure où la civilisation, par définition, est quelque chose qui se construit de manière empirique, pragmatique, par sédimentation de coutumes et de sagesse successives.
Ainsi, il vous répond dans le chapitre « Je suis passé du conservatisme comme frein au conservatisme comme riposte ». J'ai trouvé la phrase très heureuse, puisque ça explique peut-être la place un peu singulière qu'il a pris dans le débat public français. C'était pas évident, forcément, que un auteur québécois arrive à la place qui est la sienne aujourd'hui, oui, au Figaro, à CNews, dans diverses publications, mais même ses premiers ouvrages au Cerf étaient très, très remarqués. Peut-être que ça explique aussi son succès, oui, cette singularité.
C'est vrai que nous avons tendance en France à vouloir tout intellectualiser, idéaliser, théoriser, et on a tendance à vouloir théoriser aussi notre conservatisme, c'est probablement aussi mon penchant, tandis que lui le voit plus comme une dénonciation de l'imposture progressiste et de cette tentation utopiste de refaire la société à frais nouveaux. Oui, c'est très étonnant cette place qu'il a occupée en très peu de temps dans le paysage intellectuel français et dans le paysage médiatique français, ce qui n'avait rien d'évident dans le portrait de Mathieu Bock-Côté qu'à l'occasion de la sortie de ce livre nous avons publié dans Valeurs Actuelles sous la plume de Michael Fonton. Il y avait Michael rapportait un propos d'Alexandre de Vecchio qui me paraît très juste, qui disait on ne se rend pas assez compte du prodige que ça a constitué pour Mathieu Bock-Côté de prendre la place sur CNews d'Éric Zemmour dans Face à l'info et de tout de suite s'y imposer. C'est-à-dire qu'effectivement, Éric Zemmour avait pris grâce à cette émission une stature et une aura auprès du public et une place dans le débat intellectuel tout à fait remarquable. Et c'était quand même un pari très risqué. De le remplacer par un Québécois quasi inconnu du public français, et la greffe a pris de manière remarquable. Elle a pris d'une part parce qu'effectivement par son exotisme non seulement géographique mais aussi un peu intellectuel, c'est-à-dire cette façon très particulière qu'il a d'aborder les choses, Mathieu a pu apporter à nos débats un regard et un souffle nouveau. Elle a pris aussi parce qu'il y a quelque chose d'aussi stupéfiant chez Mathieu Bock-Côté, ça m'a frappé dès notre première rencontre en 2014. C'est quelqu'un qui connaît l'histoire politique française et particulièrement l'histoire politique de la droite française mieux que n'importe quel Français. Il connaît la moindre anecdote, la moindre péripétie, la moindre sous-revue d'un sous-courant scissionniste, dissident de ne sait trop quel mouvement conservateur. Et, il a absolument tout lu, tout retenu. Et donc il a à la fois cette connaissance intime absolument prodigieuse de la vie politique française et en même temps un regard extérieur. Et un regard extérieur qui est particulièrement intéressant dans le contexte actuel où, à travers ce qu'il a baptisé du nom de régime diversitaire, nous voyons s'imposer en France une forme de progressisme qui est arrivée en Amérique du Nord quelques 15 ou 20 ans avant d'arriver en France. Donc ce qui nous apparaissait, et notamment je pense à ce qu'on a baptisé du nom de wokisme, ce qu'on a vu arriver en France comme une nouveauté, était quelque chose, lui, dont il était déjà familier depuis des années, ce qui lui a permis évidemment de l'analyser et de le décrypter avec une acuité particulière.
Cette spécificité, ce rôle qu'il a pris, vous avez parlé du succès vient de sa singularité, elle vient aussi, je crois, de son aspect un peu joyeux.
Oui.
Et vous insistez beaucoup dans le début de l'ouvrage, il y a de, Il y a de vastes citations. Cette amitié m'apparaît d'autant plus miraculeuse qu'elle n'avait rien d'évident entre deux tempéraments aussi opposés, on l'a dit. Avec Mathieu Bock-Côté, les choses se sont produites en un sens singulier. D'abord est venue la rencontre qui a produit une immédiate amitié, puis est venue l'admiration. Et on sent que ça faconde, sa manière d'être est aussi un peu spéciale dans notre monde du commentariat, très hiérarchisé ou parfois un peu froide.
Oui, c'est vrai que il y a sa faconde, sa bonhomie, il y a son accent aussi qui permet de dire de manière des choses qui peuvent être parfois dures à entendre, mais qui passent mieux quand elles sont dites avec un accent québécois. On a vu aussi, je vais faire un parallèle, je ne sais pas s'il le validerait lui-même, mais quand, à travers la campagne municipale de Sarah Knafo, et bien que il pouvait être utile de dire certaines choses avec le sourire plutôt que sur un ton de déploration. Et Mathieu a effectivement ce talent de tenir un discours qui est un discours qui n'est pas toujours extrêmement joyeux, puisqu'il nous incite à prendre en compte le tragique de l'histoire, le fait que les civilisations sont fragiles et peuvent disparaître, et que donc il faut être sur nos gardes de manière à pouvoir contrer cette possible disparition, ce qui est un discours qui n'est pas forcément toujours très facile à entendre, mais qu'il fait passer grâce justement à cette verve, à cette faconde, à cette bonne humeur perpétuelle.
Son obsession anti-politiquement correcte est très, très frappante. Alors ça parfois partagé, mais on sent chez lui qu'il y est, j'allais dire, presque spontanément hostile. Enfin, ça lui sort par les yeux tout de suite. Est-ce que ça vous a marqué dans les entretiens, et comment expliquez-vous cela ?
D'abord, il y a une question de tempérament, évidemment. Il y a une question d'attachement personnel à la liberté d'expression, à la liberté de dire ce qu'on veut et de déborder, parce que c'est vrai que Mathieu est une personnalité débordante, et le mot revient souvent dans sa bouche au cours de ses entretiens, et je pense qu'il a caractérisé effectivement la société progressiste, enfin l'idéologie progressiste sous la coupe de laquelle nous vivons, comme une société fondamentalement puritaine qui ne supporte pas ce qui déborde, ce qui est excessif, et qui a tendance à traiter tout ce qui déborde, tout ce qui ne rentre pas dans les cadres, et tout ce qui tend à exprimer une forme d'exubérance, à traiter tout cela comme une pathologie. Par ailleurs, je pense que c'est aussi l'une des raisons de son acclimatation en France, c'est que il est aussi en réaction, tout aussi québécois qu'il soit, il est aussi en réaction contre un certain état d'esprit dominant au Québec, qui est une société très consensuelle, une société qui a du mal à supporter le clivage. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, Mathieu, avec sa nature exubérante et sa verve, devait se sentir un peu bridé dans la vie intellectuelle québécoise, même si il est très très loin de renier ses origines et s'il garde toute sa fierté à son pays. Mais je pense qu'il a pu s'ébrouer plus librement dans la vie intellectuelle à Paris qu'il ne pouvait le faire à Montréal.
Ça nous permet de poser la question de l'estimation de son importance au Québec, parce que c'est assez loin de nous. Il vous confie une anecdote passionnante avec Macron, qui essaye de le faire contacter par son cabinet pour l'accompagner en voyage officiel au Canada. Il répond à la personne qu'on croit deviner dans le récit que ça risque d'être très compliqué. On lui dit mais si ça va s'arranger, et appelle une demi-heure après, non, pas possible, t'es un ennemi désigné du Canada, ce qu'il prend évidemment comme une fierté.
Au Canada, certainement. Au Québec, il a un statut un peu compliqué. C'est une véritable vedette. qui suscite des sentiments divers. Bon, beaucoup, il a évidemment beaucoup d'admirateurs et beaucoup de gens qui partagent ses combats et ses enthousiasmes. Et puis il y a des gens qui ne le supportent pas et qui ne supportent pas son côté très clivant et ses positions jugées droitières, mais qui en même temps ne peuvent pas s'empêcher d'être un peu fiers de voir que ce Québécois a si bien réussi à Paris. Parce que ça, c'est une chose, je pense, auquel les Québécois, de toute sensibilité, sont sensibles, c'est de voir l'un des leurs reconnu comme une sommité dans son domaine à Paris, dans la mère patrie, dans ce qu'il n'appelle plus très souvent la mère patrie, mais que malgré tout, il continue à considérer ainsi.
Ce qui est intéressant, c'est que vous nous avez décrit cet aspect très consensuel de la société québécoise. Et pourtant, quand on entend Mathieu Bock-Cocheté réfléchir à ce qu'est la gauche, la condamnation est très forte. La gauche, c'est celle qui refuse à la droite le droit d'exister, qui veut lui imposer non simplement une prison mentale, mais une prison concrète, et notamment attentatoire aux libertés publiques. C'est aussi une manière qu'on entend peu à droite, cette condamnation aussi ferme de ce qu'est la gauche et cette volonté d'alerter, d'alarmer presque, en disant « faites attention, la gauche vous veut du mal ».
Oui, c'est-à-dire que Mathieu explique que le progressisme est d'essence religieuse, en réalité, et ne se pense pas comme une philosophie politique qui pourrait être confrontée à d'autres philosophies politiques qui seraient tout aussi légitimes et de manière à ce qu'on puisse organiser un débat, une confrontation de l'une avec l'autre, mais la gauche religieuse se pense finalement comme la seule voie possible vers le bien de l'humanité et donc considère que la philosophie politique de droite est quelque chose qui cherche à justement freiner ce progrès de l'humanité vers son bien. Et donc finalement, la seule droite qui est admissible par la gauche, c'est la droite complexée, la droite qui s'excuse d'être de droite, la droite qui n'est finalement qu'une gauche en retard. Quelqu'un comme Jean-François Copé ou Alain Juppé pourrait donner fournir d'assez bonnes incarnations. Et tout ce qui à droite s'obstine à être vraiment de droite et à contester non pas seulement le rythme imposé par la gauche, mais les buts définis par la gauche, et bien toute cette partie-là de la droite, et bien la gauche l'appelle extrême droite pour mieux la diaboliser, pour mieux la marginaliser et éventuellement pour pouvoir à terme l'interdire quand c'est possible.
Et cette lutte, elle rejoint un autre rejet très fort chez lui politiquement. Il écrit ainsi sur le plan politique: il n'importe pas de savoir si on croit en Dieu ou non, il importe de savoir si on se prend pour Dieu ou non.
Oui, ça c'est une réponse qu'il m'a faite dans un passage du livre où je l'interrogeais sur le fait de savoir si pour lui la notion de droite et de gauche avait véritablement un sens. Il n'aime pas tellement se définir comme quelqu'un de droite parce qu'il dit que finalement la droite aujourd'hui c'est un concept qui est utilisé par la gauche pour repousser les gens qu'elle n'aime pas dans la gêne extérieure. Mais malgré tout, il reconnaît des différences fondamentales entre l'anthropologie de droite et l'anthropologie de gauche, et notamment autour de la question du péché originel, puisque c'est vrai que la droite est le parti du péché originel, c'est-à-dire le parti des gens qui croient que l'homme est faillible par nature et imparfait par nature, et qu'il n'est donc pas du pouvoir du politique de forger un homme nouveau qui serait enfin libéré de ses faiblesses et de ses failles par la grâce de la politique. C'est toute la tentation effectivement du constructivisme et de progressiste et de l'ingénierie sociale qui imagine que à grands coups de réformes sociétales ou autres, on va pouvoir forger une société libérée finalement, alors même si la gauche évidemment n'appelle pas ça comme ça, mais du péché originel, ce qui est une utopie, et ce qui est une utopie extrêmement dangereuse parce que ça conduit à vouloir jouer au mécano avec les sociétés, avec les hommes, et en n'étant pas trop attentif aux dégâts qu'on peut causer, puisque c'est pour faire entrer l'humanité dans un âge nouveau de bonheur et de prospérité.
Danger qui est consubstantiel à la gauche, on l'a dit, entre le parti du péché originel et celui qui ne l'est pas. Dans une de ses acceptions contemporaines, c'est le wokisme, qui est dans une manière contemporaine. Il fait bien attention à dire que le wokisme n'est pas de rien. Il vous répond « Quand le wokisme apparaît, je n'y vois pour ma part rien d'autre que la suite de ce sur quoi je travaille depuis des années. » C'est intéressant parce qu'il fait bien la généalogie intellectuelle du wokisme. Il n'en fait pas un événement spontané, auto-spontané.
Il inscrit ça dans une histoire intellectuelle au long cours et notamment dans les mutations du marxisme. C'est-à-dire que le marxisme a d'abord prétendu faire advenir la société idéale par le biais du prolétariat. Et puis s'est rendu compte progressivement que finalement le peuple était plus conservateur qu'il ne croyait et que toute une partie du prolétariat n'aspirait que à devenir bourgeois, à devenir des bourgeois comme les autres. Et donc le marxisme est dans ses mutations successives a cherché à trouver un nouveau vecteur révolutionnaire pour remplacer ce prolétariat et ce peuple défaillant, et finalement l'a trouvé dans ce qu'on a appelé les minorités. Et donc en fait le wokisme n'est jamais que le stade ultime de cette évolution du marxisme, c'est-à-dire que on considère que l'union de la convergence des luttes des différentes minorités va être le levier révolutionnaire qui va permettre de transformer du tout au tout la société pour la conformer à l'égalitarisme progressiste hérité du marxisme.
L'émergence de Mathieu Bock-Côté, si je ne la situe pas mal en France, a correspondu à un certain moment conservateur, 2017-2018, je ne sais pas quand date son premier ouvrage au CERF.
Oui, ça doit être à peu près ça, oui.
Il est assez représentatif de l'évolution de ce paysage intellectuel et politique, en gros de l'émergence de figures d'intellectuels de droite plus variées à la télévision et dans les médias français. Vous êtes un observateur affiné de cette expression publique.
2016, son premier livre aux éditions du CERF, c'était « Le multiculturalisme comme religion politique ». Vous n'étiez pas loin.
on voit que il y a eu l'émergence de cette variété, alors sous des formes ou d'autres. Est-ce que vous considérez que c'est un moment important pour l'évolution des idées conservatrices ? Est-ce que vous pensez qu'il faut modérer notre appréciation? Certains parlent de victoire de la bataille culturelle et en ferait par exemple un exemple de cette victoire. Quel est votre point de vue d'observateur très aiguisé sur cette question?
Je pense qu'il est totalement illusoire de penser qu'on a gagné la bataille culturelle. Je pense que il y a évidemment des avancées du camp national et du camp conservateur, tant sur le plan politique que sur le plan des idées, peut-être moins par le fait qu'on ait gagné un certain nombre de combats intellectuels que par le fait que l'opinion a fini par être rattrapée par le réel, et que notamment sur les questions identitaires et sur les questions d'immigration et les questions sécuritaires également, l'impasse où nous conduisaient les utopies progressistes est devenue tellement évidente qu'il est devenu plus facile d'en parler, plus facile de dénoncer ces impostures. Je prendrai un exemple évident qui est le domaine de l'insécurité. Aujourd'hui, ce phénomène a pris tellement d'ampleur qu'il n'est plus possible de continuer à espérer masquer ce phénomène en parlant de sentiment d'insécurité sous peine de se ridiculiser immédiatement. Et on pourrait dire la même chose en matière d'immigration. Donc il y a effectivement une irruption du réel dans le débat public qui a permis aux représentants du camp du réel, qui par définition sont les conservateurs, d'occuper davantage d'espace sur le terrain médiatique. Cela combiné évidemment avec des conditions conjoncturelles qui sont notamment l'émergence de CNews, la nouvelle orientation prise par Europe 1 et qui ont permis aussi d'ouvrir un peu le champ du débat intellectuel, avec quand même cette contrepartie, c'est que le régime diversitaire dont parle Mathieu Bock-Côté, sentant que le sol est en train de se dérober sous ses pieds et qu'il est en train de perdre le monopole de la parole légitime, eh bien ce camp diversitaire se durcit et se radicalise de manière extrêmement forte. D'une part, par l'exclusion de son champ d'intervention de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une parole de droite. C'est vrai que sur ces 10 dernières années, on a vu une impossibilité de plus en plus grande pour des interlocuteurs de droite d'être invités sur des chaînes comme France Inter ou France Culture. C'est devenu vraiment très compliqué, alors que dans les années 90, c'était encore possible. Et puis par ailleurs, cette radicalisation se traduit aussi par une agressivité de plus en plus forte des médias progressistes vis-à-vis de la parole de droite, qui est maintenant définie très rapidement comme étant d'extrême droite. Il y a une extension du domaine du fascisme qui est absolument spectaculaire et qui va de plus en plus jusqu'à la tentation de l'interdiction. Et vous avez par exemple le sociologue Geoffroy de Laganerie, qui est un militant d'extrême gauche, qui est invité sur France Inter, où il explique tranquillement que il y a un certain nombre d'idées qui ne sont pas des idées progressistes et qui donc ne devraient pas avoir le droit à la parole, et qui dans son dernier ouvrage explique que si les gens votent mal, il faudrait, pour sauver le progressisme, apprendre à se passer de la démocratie et faire une démocratie sans le peuple. Et donc il va expliquer ça tout tranquillement sur les ondes de Radio France. Donc il y a une double radicalisation je pense du progressisme, qui fait que on est très 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 loin de pouvoir parler d'une victoire de la bataille culturelle.
Vous avez connu, sans faire insulte à votre âge, Laurent Dandrieu, les moments où il y avait davantage de solitude, ou moins de monde, moins de possibilités de porter ses combats de droite dans un certain nombre de médias. Radio Courtoisie a fait sa part pendant des années. Comment vous regardez cette évolution? Vous dites le travail a été accompli, vous dites elle est aussi porteuse de danger. Comment vous regardez cette émergence?
Alors j'essaye de la regarder sans amertume, parce que c'est vrai que pour les gens de ma génération, il y a un côté un peu
injuste,
parfois un peu amer, à se dire que avoir des jeunes journalistes talentueux de 20 ans, avoir micro ouvert un peu partout, alors que effectivement dans ma génération, on était vraiment condamné à une marginalité à peu près totale. J'essaye de positiver en me disant que c'est une très bonne chose pour le débat public et pour le bien commun, et voilà, et oublier ma petite amertume personnelle. Non, je suis dans ce double mouvement d'intérêt et de gratitude vis-à-vis de cette plus large parole donnée sur certains médias à des gens qui portent une parole conservatrice. Je calme aussi mon amertume en me disant que ben, ma génération y est peut-être aussi pour quelque chose, et que si on n'avait pas été quelques-uns à maintenir la flamme dans notre coin, ben, peut-être que cette flamme se serait éteinte. Et puis en même temps, évidemment, l'inquiétude, parce que tout cela est très fragile, que malgré tout, quand France Télévisions décide de faire appel à Eugénie Bastier pour animer une émission politique, on a l'impression que le fascisme est à nos portes, et que c'est le retour des heures les plus sombres, à écouter certains communiqués de journalistes de l'audiovisuel public. Le débat autour de la commission à l'oncle a quand même témoigné que, de la même façon qu'il y a deux gauches irréconciliables, bien il y a aussi deux audiovisuels irréconciliables, et que effectivement les temps qui sont devant nous s'annoncent être des temps d'affrontement politique et idéologique extrêmement violent et extrêmement sectaire.
Vous pouvez découvrir davantage les réflexions de Laurent Dandrieux dans son ouvrage d'entretien avec Mathieu Boccoté, le pessimiste joyeux chez Fayard. Je vous remercie, amis auditeurs, je remercie Benoît à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine.
D'entendre le libre journal des débats dirigé par Charles de Meyer. Émission préenregistrée le 7 mai 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie mercredi 20 mai de 21h30 à 23h et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.